nous inclinons dans la prière. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, toi qui as envoyé ton Fils au monde pour être le Sauveur des hommes et l'auteur de la vie éternelle, nous te louons, nous t'adorons et nous te rendons grâce pour ta miséricorde infinie. Il t'a plu de nous faire passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière et de te créer un peuple qui t'appartienne en propre. Ô Dieu Créateur, nous voulons ce matin célébrer ta grandeur et louer ta fidélité. Tout dans l'univers nous parle de toi. Les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains et tes perfections invisibles s'y lisent comme à l'œil. Chaque fois que le soleil se lève, en éclairant les merveilles de ta création, il annonce ta souveraineté sur tout ce qui existe et fait briller à nos yeux ton infinie majesté. La nuit aussi publie ta grandeur lorsque les étoiles scintillent au firmament. Si tu retirais ta main, qui fait sortir toutes choses du néant, elles y retomberaient aussitôt. Mais l'ouvrage de ta puissance, tu le conserves par ta bonté. C'est toi qui, chaque année, au rythme des saisons, rends à la terre sa verdure, aux arbres leurs fleurs et leurs fruits, à nos champs leurs moissons, puis à la nature tout entière le repos qui lui est nécessaire. C'est toi qui répands la pluie sur les justes et sur les injustes, et qui daigne bénir notre travail. Loué sois-tu, Seigneur, pour ces marques de bienveillance. Que loin de nous endormir dans une fausse sécurité, elles nous rendent humbles, dépendants de toi et reconnaissants. Car que sont-ils ceux qui plantent et ceux qui travaillent? Que sont-ils en regard de toi, qui seul donne la vie et la croissance? Mais ô notre Dieu, ta miséricorde est au-dessus de toutes tes œuvres. Nous te bénissons surtout pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, ton Fils. Et puisque nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, veuille disposer nos cœurs à écouter ce que tu as à nous dire. Veuille confirmer et rendre efficaces par ton Saint-Esprit les paroles que nous allons entendre. Bénis ce culte pour celui qui nous apportera le message de ta part. Bénis ce culte pour nous tous. Qu'ils nous unissent plus étroitement les uns aux autres dans une même volonté de te servir. Et qu'ému de compassion pour les foules qui s'égarent loin de toi, nous puissions répondre avec joie, « Me voici, Maître, utilise-moi. » Exauce-nous, ô notre Dieu. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons maintenant le texte de la prédication dans le livre d'Esther, au chapitre 9 et 10. Le texte de la prédication, nous terminons ce matin le livre d'Esther en lisant les deux derniers chapitres. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardochée les avait saisis. En effet, Mardochée était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardochée grandissait. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent, ils les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et Parchandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adelia, et Aridata, et Parmashta, et Arisaï, et Aridaï, et Vaïezata, les 10 fils de Haman, fils de Hamadata, adversaires des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et les 10 fils de Haman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales ? Mais quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête ? Elle sera exaucée. » Esther répondit, « S'il plaît au roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils d'Aman à la potence. » Le roi dut de faire ainsi, on en publia l'édit à Suse, et les 10 fils de Aman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le 14e jour du mois d'Adar, et ils tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur ville et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Le 13e jour du mois d'Adar, en repos le 14e, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14, en repos le 15e, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de Péraz, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardoché écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e d'année en année. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie, où chacun envoyait des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardoché. Car Aman, fils de Hammedata, l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourmenter et les faire périr. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête, et qu'on le pende à la potence, ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot « pour ». Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'ils en avaient vu et de ce qu'il leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit et autant fixé d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération, dans chaque ville, dans chaque province, dans chaque famille. Ces jours de Pourim sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abigaïl et de Juif Mardoché, écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Pourim. À tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assuérus, on envoya des lettres, messages de paix et de fidélité. Ces jours de Pourim furent institués à leur date, à l'occasion de leur jeûne et de leur clameur, comme le Juif Mardoché et la reine Esther les avaient institués pour les Juifs eux-mêmes et pour leurs descendants. L'histoire d'Esther institue le rituel de Pourim, c'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Le roi Assuérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardoché par le roi, tout cela est écrit au livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Car le juif Mardoché était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. Jusque-là, notre lecture.
Bonjour chers frères et sœurs, je m'attendais à ce que nos rangs soient un peu plus clairsemés, mais je vois que tout le monde n'est pas parti en congé, encore. J'espère que cela viendra bientôt pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Voilà, comme l'a dit Christian il y a quelques instants, eh bien nous finissons aujourd'hui cette série de prédications de ce livre d'Esther, et nous allons donc considérer ensemble ces chapitres 9 et 10. Mais avant cela, j'aimerais très rapidement faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avions découvert au chapitre 8 de ce livre quelques éléments qui préfiguraient l'œuvre rédemptrice et la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous avions vu que de la même façon que les biens d'Aman avaient été récupérés par le roi à sa mort pour être redistribués à ses ennemis, eh bien nous avions vu donc, nous nous étions souvenus, que l'Évangile nous révèle que de la même façon notre Seigneur Jésus-Christ, par son triomphe à la croix, vainquit Satan, le lia et pilla ses biens, nous emmenant avec lui dans le ciel, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, puisque nous nous sommes rappelés que, eh bien, nous appartenions à l'ennemi, mais que nous lui avons été arrachés pour être transportés dans la présence de notre Dieu. Nous avions encore vu que de la même façon que l'édit de mort d'Aman avait été rendu impuissant par le nouvel édit d'Esther et de Mardoché, accordant une possibilité de salut au peuple juif, eh bien, de la même façon, Jésus-Christ cloua sur la croix l'acte qui nous condamnait à cause de notre désobéissance à la loi, délivrant ainsi de la colère à venir. Et nous avions finalement vu que de la même façon que Mardoché, représentant son peuple, fut honoré par le roi, mettant ainsi fin à l'humiliation des Juifs et déclenchant une grande joie dans le royaume, eh bien de la même façon, notre Sauveur nous représentait lorsqu'il vint ici-bas. Nous étions en lui, dans sa marche souffrante, nous étions en lui, lorsqu'il fut cloué sur la croix, nous étions en lui, lorsqu'il ressuscita ensuite, et aujourd'hui, nous sommes en lui, toujours, mais assis dans la gloire, à la droite du Père. Et nous allons, ce matin, donc, après ce résumé, eh bien, terminer, je vous l'ai dit, cette série de prédications, en voyant ensemble, tout d'abord, l'opposition qui eut lieu, ce fameux 13 du mois d'Adar, entre les Juifs et entre un petit nombre du peuple perse. Opposition qui se conclut finalement, nous en dirons quelques mots, par la déroute des ennemis des Juifs. Ensuite, nous continuerons en disant quelques mots sur la fermeté du roi et de la reine dans le traitement de cette affaire. Pour terminer, eh bien, nous parlerons de la fête de Purim, ou de Pourim, qui fut officiellement instituée par Mardoché et Esther pour les Juifs de l'Empire. Le titre de cette prédication de ce matin est celui-ci, « Un aboutissement heureux ». Et nous aurons trois points qui seront les suivants. Tout d'abord, un combat exemplaire. Ensuite, un roi et une reine exemplaires. Et enfin, une fête exemplaire. Et tout d'abord donc, eh bien, un combat exemplaire, et ce sont les versets 1 à 11. Alors comme nous le découvrons dans ces 11 premiers versets de ce chapitre, le jour J, et tout aussi étonnant que cela puisse paraître, les ennemis des Juifs, espérant se rendre maîtres de ceux-ci, malgré le second édit qui a été publié bien des semaines plus tôt, eh bien, prennent les armes en province et à Suse, afin d'exterminer les Juifs. Mais comme l'auteur l'écrit, c'est à un véritable retournement de situation que l'on assiste, puisque c'est les Juifs et non pas leurs assaillants qui l'emportent durant cette journée, ou ces jours plutôt, dans tout l'Empire, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, parce que les Juifs, comprenant, comme on le dit habituellement, que l'union fait la force, ou comprenant que le meilleur moyen de se défendre, c'est de se regrouper pour faire front, comme l'écrit l'auteur au verset 2, ils se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Et la deuxième raison de cette victoire, c'est qu'en même temps que ces Juifs se regroupent pour faire face, eh bien une réelle crainte s'empare tout à coup des opposants aux Juifs, une crainte donc à propos des Juifs, mais aussi une crainte des grands de l'Empire. L'auteur nous dit que les princes, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires eurent peur de Mardoché, eurent une crainte de Mardoché. Alors la question qui se pose est la suivante, mais pourquoi ce peuple ou ses opposants aux Juifs, je dirais même tout le peuple perse, et pourquoi les grands de Perse eurent ainsi peur à la fois des Juifs et de Mardoché? Alors certainement pour deux raisons. Premièrement, parce que le peuple de l'Empire sait que les Juifs ont reçu, selon un édit royal, le droit de se défendre. Et ce peuple sait encore qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un peuple acculé est prêt à tout pour sauver sa vie. Et je fais référence ainsi à l'épisode de guerre qu'a connu Assuérus, dont nous avions parlé au début de ce livre. Assuérus est parti avec des millions d'hommes pour envahir la Grèce, et en luttant à 10 contre 1, il a néanmoins subi deux lourdes défaites qui l'ont conduit à revenir chez lui, penaud, après avoir été défait donc par de petites troupes grecques, mais qui l'ont battu. Et donc, ce peuple perse sait très bien qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un peuple qui est ainsi acculé, prêt à tout pour sauver sa vie. Et c'est ainsi, donc, que cette grande partie du peuple perse, tenant à sa survie, certainement pas plus opposée que cela aux Juifs, ne s'aventure pas dans une expédition qui risque de lui coûter très cher. Seule une minorité d'irréductibles prend les armes et va se faire massacrer. La deuxième raison de cette crainte, et cette fois de la part des grands du royaume, à propos de leur supérieur hiérarchique Mardoché, provient certainement de ce qu'ils ont appris qu'Esther, la reine, est de la famille de Mardoché. C'est sa cousine. Et ils ont aussi appris que Mardoché a obtenu les faveurs du roi, et particulièrement la tête d'Aman. Et que, en plus de cela, c'est maintenant Mardoché qui est le gérant des biens qui appartenaient autrefois à Aman. Et pour finir, le texte nous dit encore, au verset 4, que la renommée de Mardoché ne faisait que grandir auprès du peuple et qu'il prenait dans l'Empire de plus en plus d'importance. Alors devant un tel cumul d'avantages, devant une telle réputation, eh bien les dignitaires du royaume se rendent compte qu'il y aurait finalement pour eux beaucoup plus à perdre qu'à gagner, à s'opposer à cet homme et à s'opposer à son peuple en soutenant les assaillants. Et c'est ainsi qu'avec beaucoup de sagesse, nous avions déjà remarqué que peu d'entre eux étaient courageux, déjà au chapitre 1, ils n'osaient pas s'opposer à Assuérus, eh bien, ou en tout cas peut-être étaient-ils sages et ils sauvaient ainsi leur tête. Donc avec beaucoup de sagesse, mais surtout de crainte, comme nous le lisons au verset 3, eh bien, ils se tiennent à l'écart des opérations de répression qu'ont engagées les partisans d'Aman contre les Juifs. Alors, chers frères et sœurs, en lisant cela, en lisant ces 11 premiers versets, eh bien, comme l'écrit l'auteur, nous pouvons dire quel retournement de situation. Car souvenez-vous en effet que quelques semaines auparavant, ce même peuple juif ne faisait peur à personne. Bien au contraire, c'était un peuple condamné à mort, méprisé et sans aucune défense. Si l'on regarde à Mardoché, eh bien, lui aussi ne faisait peur à personne. Il traînait sa misère ou sa peine pour le peuple juif, revêtu d'un simple sac à l'intérieur du palais, incapable de sauver son peuple, ne faisant finalement que susciter la haine et le mépris d'Aman, le premier ministre de l'époque. Cet homme, Mardoché, n'inspirait finalement que la pitié plutôt que la crainte. La crainte, par contre, à ce moment-là, c'était Aman et ses sbires qui l'inspiraient à tous. Il tenait le pouvoir fermement et faisait régner l'injustice et la violence dans tout l'Empire. Chers amis, pour être complet ce matin, ce que nous devons surtout dire à propos de ce retournement de situation dont nous parle l'auteur, c'est qu'il serait injuste de n'y voir qu'un aboutissement de facteurs humains. Un peuple acculé qui va se défendre. Des liens de famille qui sont évidents. Car comme nous l'avons constaté les semaines précédentes, en étudiant ce livre, tout ce qui s'est passé à l'avantage des Juifs, en quelques jours, fut principalement dû à l'action providentielle de Dieu. Car c'est Dieu, et Dieu seul, qui répondit aux supplications de son peuple, dirigeant toutes les circonstances qui conduisirent à l'élection d'Esther tout d'abord. En tant que reine. C'est Dieu ensuite qui répondit aux supplications de son peuple dans l'éviction d'Aman, dans sa condamnation à mort, puis dans cette mise en place de Mardoché comme premier ministre, et enfin dans la publication de ce nouvel édit autorisant les Juifs à se défendre, ce fameux 13 du mois d'Adar. Donc une fois de plus ce matin, nous voyons apparaître en filigrane la présence et l'action providentielle de Dieu dans la vie de son peuple, lorsque nous lisons cette expression, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Et chers frères et sœurs, voilà une école pour nous ce matin. Voilà une école pour nous ce matin parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation, en tant que chrétiens, dans une situation similaire à celle des Juifs avant qu'ils prirent le temps, un temps de jeûne et un temps de supplication. Une situation similaire à celle des Juifs qui les conduisit à plier le genou devant Dieu, à le supplier et qui permit à Dieu ensuite d'intervenir de façon providentielle pour leur salut. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une situation similaire ? Eh bien, parce que de la même façon qu'à cette époque-là, de la même façon qu'à cette époque-là, Haman et les siens faisaient régner la terreur et l'injustice dans l'Empire perse, désirant exterminer le peuple de l'Alliance, eh bien nous devons dire que de la même façon, aujourd'hui, nous nous trouvons au sein d'un combat où les tenants de l'impiété, du relâchement moral, de la promotion de toutes sortes d'abominations, c'est-à-dire les ennemis jurés de l'Évangile, sont hyperactifs, agissent en toute impunité, imposant leurs horreurs à notre société, leurs abominations. Lesquelles ? La promotion de l'homosexualité. Lesquelles encore ? La promotion de l'avortement, de l'homoparentalité, le Pax, et bien d'autres choses encore qui s'imposent petit à petit, donc, à nos sociétés occidentales, et qui conduisent le peuple de Dieu à trembler, à se replier sur lui-même, à rentrer la tête dans les épaules, comme ce peuple juif à cette époque-là. Et c'est là que ce livre d'Esther peut être utile pour les chrétiens aujourd'hui, en ce qu'il nous appelle à faire front, tout d'abord. À faire front comment ? Eh bien, tout d'abord, unis dans la prière, comme le fit le peuple juif, pour lutter d'abord sur un terrain spirituel. Parce qu'à cette époque-là, il s'agissait d'abord d'un combat spirituel, et aujourd'hui, il s'agit toujours d'un combat spirituel. Car comme nous le dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, etc. C'est-à-dire contre les forces démoniaques. Et ce livre d'Esther nous est ensuite utile aujourd'hui en ce qu'il nous invite, par ce chapitre 9, à résister pratiquement à l'ennemi commun et à ces vagues d'immoralité et d'abomination qui envahissent notre monde occidental et que nous laissons, nous chrétiens, arriver tranquillement, je vous le répète, comme je l'avais déjà dit, un peu comme une grenouille que l'on met dans une casserole, dans de l'eau froide, on augmente la température et la grenouille est en train de se faire bouillir, mais sans s'en rendre compte. Il est encore utile en ce qu'il nous invite par ce chapitre à résister. De la même façon que ces Juifs se regroupèrent pour faire front à leur ennemi, ce 13 du mois d'Adar, le jour de leur extermination. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit pour nous de nous enchaîner dans des hôpitaux où se pratique l'avortement, ou de jeter des cailloux ou des grenades lors d'une gay pride. Mais il y a bien des actions à entreprendre pour nous chrétiens aujourd'hui, ou des actions auxquelles nous pouvons nous joindre. Des courriers, des manifestations, le fait que nous puissions voter, le témoignage, peut-être déjà le témoignage en famille, dans notre entreprise, ou peut-être des manifestations, afin de lutter courageusement, afin de lutter honnêtement contre tout ce que ce monde apostat veut nous imposer, je le répète, comme abomination, car ce sont des abominations dont il est question. Mais avant toute chose, je le répète, chers frères et sœurs, le plus important, comme Esther l'avait compris, c'est de prendre conscience du combat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Et par voie de conséquence, d'être unis et persévérants dans la prière, car sans celle-ci, le combat est perdu d'avance. Et puis d'attendre ensuite que Dieu ouvre les portes, comme Dieu ouvrit les portes pour ce peuple juif. Les juifs prièrent pendant 3 jours, jeûnèrent, prièrent et continuèrent certainement de prier encore. Et en 48 heures, Dieu ouvrit les portes de façon providentielle. Donc c'est à nous de prier, chers amis, d'attendre que Dieu ouvre des portes et lorsqu'il les a clairement ouvertes, de nous y engouffrer. Mais attention, il ne s'agit pas de foncer au travers de portes qui sont définitivement closes, ou en tout cas closes pour un temps, mais d'attendre le secours de l'Éternel. Ce livre, chers frères et sœurs, nous est donc utile, parce qu'il nous montre que lorsque le peuple de Dieu s'unit dans la prière, et puis se lève ensuite dans une action d'opposition à l'ennemi, il peut compter sur la puissance du secours divin et vivre de véritables retournements de situation tels que celui que l'on découvre dans ce livre. Est-ce que nous le croyons encore aujourd'hui? Et sachons encore que de la même façon que les ennemis des Juifs eurent peur, eh bien Dieu peut agir en notre faveur afin que la crainte change de camp. Car aujourd'hui, la crainte, soyons clairs, elle n'est pas du côté du monde. Elle est du côté des chrétiens. c'est de notre côté qu'il y a la crainte. Pourquoi avons-nous tellement de peine, chez nous, dans notre travail, dans notre famille, dans le monde dans lequel nous sommes, à témoigner de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce si difficile d'aller au marché, le samedi matin, d'avoir un tout petit stand et de présenter la Bible? Parce que la crainte est de notre côté, pas du côté du monde. Et pourtant, chers frères et sœurs, cette crainte peut changer de côté. C'est les ennemis de l'Évangile qui peuvent à leur tour en être saisis. Alors, il ne s'agira peut-être pas de la même crainte que celle qui saisit ces quelques irréductibles qui voulaient éliminer les Juifs. Mais sachons une chose, c'est que lorsque le monde voit qu'il y a de la résistance à son encontre, lorsqu'il le sait, il est gêné, il est freiné, voire même stoppé parfois dans sa course. Surtout si cette résistance est d'abord spirituelle et vient de Dieu. Mais rappelons-nous, je le répète, que de la même façon que les Juifs durent prier longtemps avant de se lever et être unis dans la prière, avant de se lever pour aller au combat, pour finalement combattre, eh bien cela signifie la même chose pour nous. Persévérer d'abord dans la prière, puis nous lever et agir. Cela signifie quoi? Du temps, donc du renoncement, de la transpiration ou de la sueur et de l'opposition. Alors je ne m'appelle pas Churchill. C'est ce qu'il promit aux Anglais lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas comme les généraux français qui, eux, étaient sûrs d'avoir déjà gagné. Mais c'est néanmoins la réalité, chers frères et sœurs. Alors, est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes déjà prêts à payer le prix en priant plus régulièrement et avec plus de ferveur pour notre pays et pour nos autorités? Pour le monde au sein duquel nous vivons et nous sommes appelés à être des lumières, le sel de cette terre. Est-ce que nous sommes prêts à attendre aussi patiemment le signal de Dieu? Et au moment où ce signal nous est donné, de rentrer dans la brèche? Alors ce matin, je vous invite à commencer ou à continuer à vous approcher ou à nous approcher de lui, nous souvenant d'une chose, c'est que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais vous faire remarquer encore ceci qui ressort clairement du texte. C'est que le texte nous dit plusieurs fois que les Juifs ne pillèrent pas les maisons de leurs ennemis. C'est au verset 10, au verset 15 et au verset 16, quand ils se défendirent. Et pourtant, les Juifs en avaient le droit. Ils avaient le droit non seulement d'éliminer, mais ensuite de piller. Et ils ne le firent pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce n'était pas par cupidité ou par avarice qu'ils résistèrent et qu'ils tuèrent leurs ennemis, mais dans le seul but de survivre. Et disons ensuite qu'en faisant ainsi, ils honoraient aussi le roi qui les avait sauvés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en ne touchant pas au bien de leurs ennemis, ils permettaient au roi de mettre la main dessus, parce que le roi avait un droit de confiscation dans ces cas-là, et il permettait au roi donc de s'enrichir un petit peu plus. Et voilà l'attitude de cœur qui devrait être la nôtre, chers amis, qui devrait nous caractériser lorsque nous sommes appelés à nous opposer et à résister au monde. Agir non pas par intérêt personnel, agir non pas pour répondre à une quelconque convoitise, mais par amour de la vérité et pour la gloire de notre Dieu. Que tel soit notre témoignage lorsque nous prions, lorsque nous nous levons et lorsque nous nous engageons dans le combat. Que tel soit notre témoignage. Le deuxième point, un roi et une reine exemplaires. Ce sont les versets 12 à 19. Alors on remarque dans la suite de ce texte, dans ces versets, qu'Assuérus commente le nombre de victimes à Suse et s'interroge sur les conséquences de la résistance des Juifs dans le reste de son royaume. Alors, en lisant ce que dit le roi, alors on peut se demander s'il estime que le nombre de victimes est trop élevé, et on peut se poser la question de savoir s'il est en train d'appréhender un massacre étendu dans tout l'Empire, en se disant, mais pourvu qu'il s'arrête, combien vont-ils en tuer? Voilà peut-être la première interprétation qui peut être la nôtre lorsque nous lisons ce texte. Mais la lecture attentive de ces versets nous montre au contraire que son initiative d'offrir à la reine ce qu'elle désire démontre l'inverse. On peut même comprendre dans ce texte que le roi, loin d'être alarmé par le résultat numérique du massacre, n'oublions pas que nous avons affaire à un empereur qui a perdu plus d'un million d'hommes il y a quelques années. Donc la vie de ces soldats, de quelques centaines d'habitants de l'Empire perse, à mon sens, lui passait un tout petit peu au-dessus de la tête. Un peu comme Napoléon qui disait que pour lui, quelques centaines de milliers d'hommes, c'était peu de choses. Donc le roi, loin d'être alarmé, disais-je, par le résultat numérique du massacre, estime que les Juifs ont finalement tué fort peu de personnes dans cette journée. Et c'est la raison pour laquelle il propose à la reine, de façon indirecte, si elle désire que la résistance continue un peu plus longtemps. Alors on peut s'étonner que le roi prenne ainsi part pour les Juifs. Mais ce que nous devons réaliser, et particulièrement aujourd'hui où nous sommes dans le politiquement correct et dans le sentimentalisme, où certains crient horreur en lisant ce texte, ce que nous devons réaliser, comme nous le montre donc l'auteur, c'est que ce combat n'oppose pas les Juifs aux non-Juifs, mais plutôt des victimes à leurs agresseurs. Ça, c'est la réalité. Et Esther, avec beaucoup de sagesse, profite de cette offre faite par le roi en sollicitant effectivement une prolongation du jugement, parce que certains ennemis ont peut-être échappé aux Juifs de Suse. Et la reine souhaite aussi les atteindre. Son objectif, en prolongeant ainsi la confrontation, c'est de prémunir son peuple, tout d'abord, et l'Empire ensuite, parce qu'elle réagit comme reine, d'une éventuelle nouvelle offensive des ennemis des Juifs, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années. Alors c'est vrai que ce qui peut paraître étonnant dans ce texte, c'est qu'elle demande, en plus de cette prolongation, la pendaison des cadavres de 10 hommes. Qui sont les 10 fils d'Aman. Et cela nous semble barbare. Mais il s'agit en fait d'une pratique habituelle. D'une pratique qui remonte à Moïse. Parce que depuis Moïse, il était coutumier de pendre la dépouille mortelle des criminels. Pourquoi ? Pour mettre en garde quiconque contre les crimes similaires commis par ceux qui étaient ainsi suspendus ou dont le cadavre était suspendu. Et ces 10 fils d'Aman formaient probablement le cœur du mouvement antisémite, et leur dépouille ainsi exposée aux vues et aux cieux de tous était une démonstration terrible de ce qui était arrivé aux instigateurs du génocide et donc un avertissement solennel à ceux qui auraient voulu continuer de lutter contre les Juifs. Ce qu'il fallait, et c'est ce qu'a compris Esther, c'est ce que comprend certainement Assuérus, c'était imprimer la terreur dans l'esprit et le cœur des ennemis des Juifs pour éviter que ne se perpétuent l'animosité et les crimes à l'égard de ce peuple. Esther n'est donc ni barbare ni sanguinaire, mais sage. Mais sage. Je le répète, parce que contrairement à ce que certains théologiens ou historiens affirment en disant qu'on voit une trop grande effusion d'hémoglobine dans ce chapitre et une cruauté gratuite, nous devons plutôt, en tant que chrétiens, relever les saines réactions du roi et de la reine en tant que souverain de Perse. Pourquoi ? Parce que cet homme et cette femme vivaient, comme nous aujourd'hui, et ils le savaient parfaitement, dans un monde qui était cruel et pécheur. Où seul l'exercice d'un jugement radical agirait comme un frein à l'escalade du péché, qui ne cessait déjà de menacer le monde et de menacer l'Empire. Il était donc de la responsabilité d'Esther. Il était donc surtout de la responsabilité d'Assuérus, en tant que souverain, de mettre de l'ordre dans le royaume en accomplissant la justice au prix de la vie des méchants. Quelqu'un a écrit ceci en s'appuyant sur ce texte. Sur le plan social, une miséricorde inconsidérée envers les meurtriers ne peut que renforcer l'injustice dans un pays. La paix durable d'une nation dépend du juste jugement des criminels. Alors dans ce sens, chers amis, ceux qui refusent aujourd'hui la nécessité des jugements exemplaires à l'encontre de l'injustice nient les réalités, les dures réalités de la vie d'un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et le problème de nos pays et d'une grande partie du monde chrétien, ou qui se dit chrétien, disons occidental, ça simplifiera les choses et ça sera plus vrai, eh bien le problème de nos pays, c'est qu'au nom de l'amour, au nom du pardon, au nom d'une conception angélique de l'homme, eh bien, on a interdit la peine de mort. Oubliant que la Bible, ou que dans la Bible, la justice prend toujours le parti de la personne lésée pour laquelle la restitution doit être faite. La justice et la sainteté de Dieu se manifeste envers la personne lésée en respectant le caractère sacré de sa vie. La peine de mort, dans les cas de meurtre, est donc la façon biblique de protéger la vie et de rendre justice à celui qui est mort. Voilà la réalité biblique. Et souvenons-nous, à ce propos, à propos de la peine de mort, du texte fondateur de celui-ci dans l'Écriture, en Genèse 9, les versets 5 et 6. Dieu s'adresse à Noé et à sa famille, et il dit ceci: « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ce texte établit clairement les limites de la peine de mort en expliquant qu'elle ne doit s'appliquer qu'aux personnes ayant injustement pris la vie d'autrui dans le but de démontrer la sainteté de la vie et le fait que l'on ne peut pas ôter impunément la vie à son prochain. Et le Lévitique nous montre clairement, en nous donnant des exemples précis, eh bien, que la peine de mort, effectivement, est biblique et doit s'appliquer en cas de meurtre. En cas de meurtre. Dans ce sens aussi, Paul, en Romains 13, verset 4, nous rappelle que le gouvernement institué par Dieu a encore cette responsabilité de punir de mort. Il écrit ceci: « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » C'est l'apôtre Paul, c'est après la venue de Jésus-Christ, c'est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament qui, selon certains, est le livre de l'amour de Dieu, et l'Ancien Testament serait le livre de la colère de Dieu. C'est le Nouveau Testament. Toujours dans le Nouveau Testament, en Actes 25:11, nous voyons encore que Paul n'est pas opposé à la peine capitale. Et il est même prêt à la supporter pour lui, si tant est que preuve soit faite de sa culpabilité. Il est écrit ceci: « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Et Paul n'est pas en train de faire du chantage. Si vous ne me croyez pas, venez aux études sur le livre des Actes le jeudi soir, où nous l'avons encore vu jeudi, quand Paul s'adresse ainsi à ceux qui l'accusent, il s'adresse avec une grande honnêteté et il n'est pas en train de jouer et de faire des pressions psychologiques comme certains me l'ont rappelé jeudi soir. Troisième point, une fête exemplaire, ce sont les versets 21 à 32. Alors, sans être la principale raison, une des raisons d'être du livre d'Esther est aussi d'expliquer comment cette fête de Pourim fut intégrée au calendrier juif alors qu'elle n'appartenait pas aux dispositions de la loi donnée par Moïse. Et comme nous le découvrons, nous l'avons découvert ensemble déjà au chapitre 3, verset 7, le terme « pour », d'où vient le mot « pourim », était très vraisemblablement un mot assyrien qui signifiait « le sort », en référence au sort donc que jeta Haman pour déterminer le jour propice pour l'extermination des Juifs. Et les Juifs appelèrent cette fête « pourim » pour se rappeler qu'on avait jeté le sort en vue de leur destruction, mais que cela avait conduit par la grâce de Dieu et contre toute attente à leur délivrance. Car l'histoire nous montre en effet qu'ils mirent leurs adversaires à mort ce 13e jour du mois d'Adar. Ils se reposèrent le lendemain et en firent un jour de fête, de joie, de repos et une occasion d'échanger des cadeaux. Alors la reconnaissance officielle, nous la découvrons ici, dans ce chapitre, de cette fête de Pourim, repose en fait sur trois actions. Je vais les passer très très rapidement. Tout d'abord, elle repose sur la naissance de cette fête par Mardoché, au moyen de lettres qu'il envoie à tous les Juifs du royaume. Ce sont les versets 20 à 22. Et puis ensuite, cette reconnaissance officielle vient du respect scrupuleux de cette manifestation par le peuple juif. Au verset 23, nous lisons « Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardoché. » Et enfin, nous assistons, dans les versets 29 à 31, à l'institutionnalisation par Esther et Mardoché de cette fête. Au début, Mardoché envoie des lettres, les Juifs prennent l'habitude donc de fêter cette fête de Pourim, mais finalement, dans ce sens-là, Esther et Mardoché l'institutionnalisent. Il est écrit « La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le Juif Mardoché écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Pourim. Ces jours de Pourim furent institués. » Alors la grande leçon à tirer, chers frères et sœurs, de cette fête, de cet épisode, c'est qu'il faut entretenir avec soin le souvenir de la délivrance de Dieu en faveur de son peuple. Voilà ce que nous devons retirer de cette fête. Entretenir avec soin ce souvenir de la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle Mardoché veilla à ce que tous ceux qui avaient vécu ces expériences traumatisantes n'oublient jamais ce que Dieu avait fait pour eux. Qu'ils ne l'oublient jamais. Et qu'ils fassent en sorte que leurs descendants après eux commémorent cette délivrance. Parce que ces descendants devaient également à Dieu leur existence et leur survie à Dieu et à cette délivrance. Et de la même façon, mes amis, eh bien, l'un des points les plus importants de la vie chrétienne, de la même façon, c'est le souvenir de la grâce libératrice de Dieu par le don gratuit du salut en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons nous aussi notre fête de Pourim, un jour de fête qui nous rappelle notre libération de l'esclavage, du péché et de la mort. Ce jour de fête et de joie, ce jour au cours duquel nous prenons ensemble un repas en commun, de la même façon que les Juifs se réjouissaient ensemble et faisaient un festin, ce jour où nous profitons de la communion fraternelle en échangeant à la fin du culte, en nous invitant à manger les uns les autres, un peu comme les Juifs se faisaient des cadeaux les uns aux autres, eh bien ce jour-là, ce jour de fête, ce Pourim pour les chrétiens, eh bien c'est le dimanche. C'est pas le jour de Pâques. Le jour de la résurrection, en général, c'est le dimanche, hein, donc quand on fête la Pâque. Mais c'est tous les dimanches. Car de la même façon que la fête de Pourim fut instituée pour rappeler aux Juifs leur délivrance de la mort, eh bien de la même façon, nous célébrons notre délivrance du péché de la mort le dimanche, le jour de la résurrection de notre Sauveur. Résurrection qui était la certitude de l'accomplissement de notre salut. Et cette institution divine ne remonte pas à Esther, mais remonte au texte de la loi, en Deutéronome 5, dans lequel Dieu ordonne déjà aux Israélites de respecter le jour du sabbat en souvenir de leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte, qui est une préfiguration de la délivrance du péché pour les chrétiens. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Alors vous me direz, mais alors pourquoi on n'observe pas le samedi ? Eh bien parce que le jour de notre délivrance, c'est le dimanche, car notre Sauveur est ressuscité le dimanche. Et de la même façon que les Juifs respectaient le sabbat en souvenir de leur délivrance de l'Égypte, eh bien, nous respectons ce jour, notre sabbat, si vous voulez, le dimanche, en souvenir de notre délivrance par Jésus-Christ qui est ressuscité un dimanche. On peut dire encore que de la même façon que les Juifs à Pourim faisaient un festin en souvenir de leur délivrance, eh bien, de la même façon, nous prenons le dimanche en Église le repas du Seigneur en souvenir de notre salut en Jésus-Christ, selon l'institution de notre Sauveur, selon l'ordonnance qu'il nous a laissée. Et rappelez-vous que déjà Israël était invité à célébrer tous les ans sa délivrance de l'Égypte en mangeant du pain, des herbes amères, de l'agneau et en buvant du vin. Et pour nous, notre Dieu nous a laissé un signe d'alliance qui est le fait de prendre du pain et de boire du vin. Signe d'alliance dont nous avons besoin, qui nous montre le don de notre Sauveur, le don de son corps sur la croix et du sang qui a été versé, et qui nous montre que de la même façon que le pain nous nourrit, il nous nourrit par son esprit spirituellement. De la même façon que le vin réjouit nos cœurs, il nous réjouit aussi dans la vie chrétienne par son esprit. Et pour terminer, disons enfin que de la même façon que les Juifs prenaient congé à Pourim pour se reposer, eh bien de la même façon, nous consacrons le dimanche au repos afin de prendre plaisir en Dieu parce que c'est le jour de la recréation de toutes choses par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette institution divine remonte au texte de la loi, mais d'Exode 20 cette fois, dans lequel Dieu ordonne déjà aux Israélites de respecter le jour du sabbat en souvenir de l'ordre créationnel de Dieu et du fait qu'il se réjouit de toute son œuvre. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, est-il écrit. Chers amis, nous avons donc le devoir de respecter cette journée. Il est faux de dire que tous les commandements sont contenus dans le Nouveau Testament, mais pas celui du sabbat. Il y a un changement, certes, mais il est toujours présent. La réalité est toujours présente. Dieu a mis à part cette journée pour que nous lui rendions un culte à sa gloire. Et nous avons besoin pour notre foi d'une telle journée de fête. On priait tout à l'heure avec Christian, et Christian priait dans ce sens. Nous en avons un réel besoin de cette journée de fête, de joie et de repos. Car comme Esther et Mardoché l'avaient compris pour les Juifs de leur époque, nous avons une propension à oublier les grâces dont nous sommes les privilégiés. Et nous avons par-dessus tout une propension à oublier Dieu. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est la raison pour laquelle, connaissant notre infidélité et notre faiblesse, il nous a donné le dimanche. Nous avons 6 jours pour faire tout notre ouvrage et nos loisirs. Et il en met un de côté pour nous exhorter en assemblée à n'oublier aucun de ses bienfaits. Il en met un de côté pour que nous nous rappelions ensemble de lui et nous réjouissions en lui, car tel est notre but ici-bas, glorifier Dieu et trouver en lui notre bonheur éternel. Il met un jour de côté pour que le souvenir de notre salut en Jésus-Christ attise les flammes de notre foi en un brasier qui réchauffe et affermit. La question est donc celle-ci, chers amis. Est-ce que le dimanche est un jour de joie pour vous, ou bien un sujet d'agacement auquel vous vous pliez de mauvaise grâce, puis vous ne pouvez pas dire ici, bon, on n'est plus sous la loi, je vais aller skier, bon, peut-être pas en ce moment, mais... Si vous vous y pliez de mauvaise grâce, si c'est pour vous une loi qui s'impose à vous et que vous supportez si difficilement, eh bien ce doit être pour vous un signal d'alarme, que quelque chose ne va pas dans votre vie chrétienne, que vous vous êtes endormi, refroidi ou éloigné. Car de la même façon qu'au chapitre 8, nous voyons ces Juifs exploser de joie lorsqu'ils voient Mardoché revêtu des attributs royaux, préfiguration de Christ. De la même façon que cette fête de Pourim était un sujet de joie, de la même façon, le dimanche devrait être pour nous un temps particulier de joie. Et si donc, peut-être que vous venez le dimanche matin en rechignant et que vous laissez des traces, les traces de vos pieds, parce qu'on vous tire pour venir jusqu'ici, alors je vous invite à revenir à lui. Jacques écrit ceci, le frère de notre Seigneur, l'écrivain. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Nous venons donc de voir ce matin, chers frères et sœurs, comment nous sommes exhortés à ne pas baisser la tête face à l'opposition du monde, mais à prier d'abord, et à résister ensuite en nous attendant à Dieu, nous rappelant, je vous le répète, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il n'y a aucune raison pour que la crainte soit toujours de notre côté. Bien au contraire. Nous avons ensuite admiré ce matin la sagesse d'Esther à l'œuvre, par le courage et la détermination dont elle fit preuve, en favorisant le bien, comment ? Par l'éradication du mal dans son pays. Alors prions pour nos autorités. Et nous y sommes fortement exhortés par l'apôtre Paul, afin qu'un tel courage revienne et que justice soit faite selon la vérité dans notre pays. Et puis nous avons enfin vu combien cette fête de Pourim nous invitait à nous souvenir de cette journée de fête, de repos et de joie que devrait être pour nous le dimanche, en tant que chrétiens, en famille et en église. Alors que Dieu bénisse cette journée, que Dieu bénisse cette journée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et qu'elle lui soit vraiment consacrée. Permettez-moi de terminer courtement en disant quelques mots à propos de ce dernier chapitre et en soulignant juste ceci, c'est que l'auteur termine son livre en mettant l'accent sur le rôle prépondérant de Mardoché. Et en quelques mots, il démontre dans ces 3 versets à quel point son influence dépasse les événements qui sont décrits dans ce livre. Cet homme qui était dépeint comme effacé, au début, n'a cessé de grandir. Et d'une certaine manière, il annonce le ministère de Jésus-Christ. Comme l'a écrit quelqu'un, ce que Mardochée représente pour l'histoire d'Israël, c'est ce que le Messie représentera pour l'histoire de tous les peuples. Et dans ce sens, on peut dire ce matin que Mardochée devient presque un type de Christ, que Dieu a voulu déjà dépeindre dans ce livre d'Esther et toute son œuvre de rédemption, comme nous avons pu le voir ces dernières semaines. Que le Seigneur bénisse sa parole et que grâce ou gloire lui soit rendue pour son œuvre rédemptrice. Amen.